C'est parti pour un dimanche de campagne, le dernier avant le second tour de la présidentielle. Autant dire que ce sera dense ce soir. On s'arrêtera tout d'abord sur ce qui s'est passé ce week-end, sur le meeting d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Le président candidat a parlé environnement et danger de l'extrême droite.
Ne cédez pas au grand relativisme qui consisterait à dire tout se vaut. Celui qu'on n'aime pas forcément et l'extrême droite, non, ça n'est pas la même chose.
Pas de meeting pour Marine Le Pen, mais un déplacement en Normandie. Marine Le Pen qui ne cesse de fustiger l'attitude du chef de l'État.
Vous savez, l'image qu'a Emmanuel Macron auprès des Français, le gouvernement d'Emmanuel Macron a été un gouvernement affreusement autoritaire, qu'il a gouverné seul, avec brutalité.
Également au programme de ce dimanche de campagne, la semaine politique de Cyril Lacarrière. Et au like citoyen avec Jean Mastier, streamer politique sur Twitch. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Quel est le programme ce soir?
On va parler de la division des insoumis dans la perspective du second tour.
Et on s'arrêtera aussi sur les résultats de la consultation organisée par Jean-Luc Mélenchon auprès des parrains de la France insoumise. Ensuite, place au bobino de Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Coup de projecteur sur les débats télévisés d'entre-deux-tours, celui de 1981 qui était en fait la réplique de celui de 1974.
Ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé.
Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Giscard et Mitterrand, 74 et 81. Le débat de cet entre-deux-tours 2022 aura lieu mercredi. Là aussi, on en parlera avec ceux qui vont nous accompagner jusqu'à 19h. Bonsoir Corinne Laïc.
Bonsoir.
Journaliste politique à l'Opinion, vous avez consacré, je le signale, 2 livres à Emmanuel Macron, président cambrioleur, paru en 2020. La nuit tombe deux fois, sorti cette année, toujours chez Fayard. Bonsoir Charles Sapin.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro, vous suivez l'extrême droite. Auteur, vous, aux éditions de l'Archipel, de Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs. Donc, tout est dit. Votre regard à tous les deux nous permettra de nous arrêter sur la personnalité des deux finalistes auxquels nous tenterons de consacrer le même temps de parole et temps d'antenne au cours de cette émission réalisée par Fred Milano, à la rédaction en chef Cyril Lacarrière, à la technique Jenab Sangaré.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Commençons donc par le meeting d'Emmanuel Macron hier à Marseille, un décor de carte postale avec le vieux port en arrière-plan. Pour un message qui s'adressait clairement aux électeurs de gauche ayant choisi l'écologie version Jadot ou Mélenchon, oubliez les renoncements suite à la Convention citoyenne sur le climat et les moqueries sur le modèle Amish, Emmanuel Macron repeint tout en vert.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Ça n'est pas simplement une politique, c'est la politique des politiques.
Un appel du pied aux écologistes qui ne sont pas dupes. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, était sur France Info ce matin.
Il avait 5 ans pour agir et il ne l'a pas fait. Donc il n'y a aucune raison de croire véritablement en ses promesses. Et pour autant, j'utiliserai le bulletin de Macron pour battre l'extrême droite. Je n'attends rien d'Emmanuel Macron, je ne lui demande rien. Mon vote et le vote des écologistes ne vaut pas quitus, ne vaut pas soutien. L'enjeu du 24 avril, c'est pas est-ce que Emmanuel Macron est crédible sur l'écologie ? Bien sûr que non.
Marine Le Pen, elle aussi, répond à Emmanuel Macron qui fustige sa volonté de démonter les éoliennes en mer. Pour le président candidat, même incompétente, elle est climato-sceptique. Fin de citation, pas du tout dit l'intéressé.
Je ne sais même pas sur quoi ils se fondent pour dire cela. Je n'ai jamais été climato-sceptique. J'ai un projet qui précisément tient compte de l'environnement, tient compte de l'écologie.
Vous êtes victime d'anathème, c'est ce que vous dites.
Oui, de sa part, je suis victime d'anathème. Or, moi, j'aimerais que cette campagne se déroule argument contre argument, projet contre projet.
Voilà pour l'écologie et le meeting de Marseille. Ce meeting, Corinne Laïc, évidemment, il n'a rien à voir avec celui de Nanterre pour Emmanuel Macron, ni sur la forme, ni sur le fond. Qu'est-ce qu'on en retient avant d'autres choses? Pas beaucoup de monde, déjà?
Il y avait beaucoup moins de monde que prévu, beaucoup moins de monde évidemment qu'à Nanterre, moins de monde je crois que prévu, parce que nos confrères qui ont pu filmer les pelouses nous ont montré beaucoup de verre, donc c'était effectivement la tonalité du discours. D'Emmanuel Mélenchon, dirais-je. Il y a un moment où je me suis dit, tiens, Mélenchon, ça lui va bien d'avoir maigri, on a l'impression qu'il a 30 ans de moins, et je me suis dit, non, c'est Emmanuel Macron qui parle. Alors,
C'était un peu monothématique, non ?
C'était monothématique, mais c'était évidemment volontaire. On est typiquement dans une campagne d'entre-deux-tours. Le candidat, comme son opposante, va appuyer sur les touches du piano qui l'avantage. Là, il a évidemment intérêt à se concilier le vote d'une partie de l'électorat mélenchoniste. Dans ce qu'il dit, il y a évidemment des clins d'œil sympathiques pour les mélenchonistes. Bon, il parle de l'avenir en commun, il veut planter 140 millions d'arbres, je crois.
140 millions, oui.
Voilà, ça paraît énorme.
Une fête de la nature.
Il veut la fête de la nature.
Qui existe déjà.
Le quatrième samedi de mai. Mais ce qu'il a dit sur le fond, il reprend des choses qu'il avait déjà dites. La planification écologique, il en parle par exemple le 31 mars en Charente-Maritime lors d'un déplacement de campagne. La neutralité carbone en 2050, il en parle dans sa conférence de presse du 17 mars. De même que le fait que la France serait la première nation à sortir du pétrole, du charbon et du gaz. Mais on voit bien qu'il y a un emballage, une musique destinée à flatter les oreilles des électeurs sensibles à l'écologie avec au cœur, cette idée d'un Premier ministre qui serait chargé de la planification écologique, ce qui montre à ses yeux l'importance du sujet. Après, les électeurs sont libres d'y croire ou de pas y croire. On peut se dire que bon, les ralliés de la 25e heure ont le droit de se rallier, et on peut se dire, comme le disait Bayou tout à l'heure, oui, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt ?
Sur les réseaux sociaux, Jean, vous qui surveillez ça de près ?
Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de personnes reprennent le discours de Julien Bayou en disant « ah bah c'est sympa, c'est dommage qu'il n'ait pas été président ces 5 dernières années, celui-là il a de bonnes idées ». Vous voyez le genre un peu de ton qu'on peut retrouver sur Twitter. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un grand marché de dupes avec un Emmanuel Macron qui promet des trucs dans lesquels il ne croit pas énormément, sinon il ne les aurait jamais mis en place, et beaucoup d'électeurs qui font semblant d'apprécier ça parce qu'en fait ils savent qu'ils vont voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen, et qui en même temps sont pas dupes non plus de ses discours. Donc c'est vraiment une campagne d'entre-deux-tours qui est très peu enthousiasmante pour tout l'électorat qui est sensible à ces sujets.
Thomas Legrand, vous êtes d'accord?
Alors, Moi, j'ai une analyse un peu différente, parce que quelque chose qui est vrai, c'est qu'on n'a jamais vu, moi j'ai pas le souvenir, dans un entre-deux-tours, qu'un candidat aille aussi clairement et sans phare sur les thèmes, en reprenant les slogans
des adversaires,
et du troisième qui est l'homme clé et qui est l'électorat clé. Là, c'est vraiment, alors là, sans vergogne, et ça paraît assez gonflé. Et en même temps, quand il fait cette annonce-là, à ce moment-là, il se lie politiquement, d'une certaine façon. Parce que quand vous reconnaissez, quand vous dites à 3 ou 4 jours, enfin à 7 jours du scrutin, bah écoutez, si je gagne, ça sera grâce à cela. Ça sera grâce à cela. Donc il est, toutes ces 5 prochaines années, on va lui répéter. On va lui répéter mon mandat ce sera écologique ou ne sera pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et je trouve qu'on pourrait imaginer de dire chiche, parce que si le GIEC nous dit qu'il reste que 3 ans, là c'est les 5 prochaines années. Donc il faut les électeurs écologistes ou les électeurs mélenchoniens qui ont perdu peuvent se dire bon bah on va le charger, on va charger la BAC. Vous savez, Mitterrand disait c'est pas tellement la sincérité qui compte. Je préfère quelqu'un qui fait quelque chose de façon insincère que quelqu'un qui fait mal, qui a des mauvaises idées de façon sincère. Politiquement, quand on fait des promesses, l'environnement politique compte beaucoup plus au moment où on les fait que la sincérité. Et donc, moi, je crois que, en plus, il donne un cadre institutionnel avec un premier ministre, effectivement, qui doit être le premier ministre de la transition, plus un ministre de la planification nationale, plus un ministre de la planification territoriale.
Enfin, on avait quand même eu déjà un numéro 2 du gouvernement.
Mais bien
Nicolas
sûr,
Hulot, qui était censé faire
tout ça,
tout le travail.
Mais n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron...
Et on a déjà une planification écologique
sûr,
avec
Emmanuel
la stratégie
Macron,
bas carbone, la programmation.
Emmanuel Macron ne briguera pas de nouveau mandat. Il n'a pas d'élection. Il n'a pas la droite à séduire. Alors, soit il veut marquer l'histoire et il va falloir qu'il fasse ce qu'il a dit, soit il n'y croit pas du tout. Et alors, c'est un marché de dupes énorme et il y aura une crise énorme. Mais en tout cas, là... Les petits gars et les petites filles, les gamins qui manifestent tous les samedis, ils vont pouvoir continuer à le faire et il faudra pas leur envoyer du LBD parce que c'est Macron qui les a incités et qui dit vous avez raison.
Corinne Laïc.
Dans une vision un peu optimiste, pour poursuivre ce que dit Thomas Legrand, on peut dire qu'il préempte la configuration politique qui sera issue du second tour s'il est réélu, à savoir, il tient compte des gens qui l'auront porté au pouvoir et de cette espèce de tripartisme qui est apparu, et donc il tient compte de la composante mélenchonienne, oui, même si elle n'a pas gagné l'élection, mais qui aurait été une composante de sa victoire.
L'électeur peut se dire, si j'attends que les écologistes ou que Mélenchon soient au pouvoir, gagnent les élections pour que l'écologie avance, voilà. Donc il y aura une pression énorme sur lui.
En tout cas, il ratisse très large, parce qu'il y a eu cet appel pour ceux qui ont voté écolo, mais il tient compte de tous les électorats. Par exemple, il y a la question de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Ça, c'est porté par nombre de partis d'opposition, y compris par Marine Le Pen, Charles Sapin.
Oui,
ça a été refusé par Emmanuel Macron depuis des années, et là, finalement, on le resserre.
Oui, mais ça souligne en fait la plasticité de ce président candidat. Enfin, on a l'impression dans cet entre-deux tours que finalement son pari est réussi, que la droite est à 4 et il quitte ses habits de candidat libéral pour faire un gogo gadgetto écolo et terminer sa transformation. Parce qu'en fait, c'est une force de gauche qui est arrivée au-dessus de 20. Ce qui est intéressant quand on regarde l'écologie, en fait, c'est un peu comme le pouvoir d'achat. Quand on est au pouvoir, on n'en fait jamais assez, de toute façon. Et ça s'est vu pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, quand il a abandonné Notre-Dame-des-Landes, quand il a abandonné la Montagne d'Or, quand il a abandonné Europa City. Finalement, il a tiré très très peu de crédit de tout ça. Donc là, en effet, il met le paquet. L'objectif, encore une fois, on est dans une campagne de second tour, donc il n'est pas là pour chercher de l'adhésion à son projet, il est là pour apparaître comme mieux disant de son adversaire qui est Marine Le Pen. Et du coup, il y va à fond.
Marine Le Pen qui est rattrapée par cette campagne d'entre deux tours également. Jusqu'à présent, elle nous parlait surtout de ses chats. Là, ça devient plus compliqué. Elle est interpellée. Éric Zemmour est plus là pour faire paratonnerre. On en revient aux fondamentaux.
Tout à fait. D'ailleurs, il se garde de le dire en public, mais en privé, c'est vrai que les équipes autour de Marine Le Pen et même Marine Le Pen elle-même est très surprise par cette arrivée au second tour. Enfin, où il y a eu d'un coup une rediabolisation, un retour d'attaque auquel elle n'était plus habituée, parce qu'en effet, Éric Zemmour jouait les paratonnerres et que finalement il y avait un zoom médiatique qui n'était pas forcément sur elle. Ce second tour signe un peu la fin de la dolce présidentielle pour Marine Le Pen, qui pouvait pendant 7 mois dérouler son programme en grande partie sur le pouvoir d'achat. Ce qu'elle essaye de mettre en place, et on l'a vu ces 2 derniers jours, ça s'est vu lors d'un déplacement dans le Vaucluse où elle a fait un meeting à Avignon et puis ensuite elle a fait quelques marchés.
Et vous étiez avec elle, c'est ça ?
J'étais avec elle.
Interpellée sur le voile, en tout cas.
Exactement. Il y a une réplique en fait en deux temps. D'abord, essayer de renvoyer comme un boomerang cette diabolisation, mais vers Emmanuel Macron. Jusqu'à certains de ses proches disent voilà, celui qui est dangereux pour la démocratie, celui qui est dangereux pour l'État social, c'est Emmanuel Macron. Il faut lever un front républicain anti-Macron. On retrouve en fait un peu cette stratégie qu'elle avait eue déjà lors des européennes, qui était de réveiller ce vote anti-Macron. Deuxième phase de cette réplique, c'est essayer de rassurer, donc préciser ses mesures de programme, quitte à revenir sur certains points extrêmement symboliques, comme l'interdiction du voile dans l'espace public. Lors de ce marché à Pertuis, elle a été en effet prise à partie par une femme âgée, voilée, qui lui a dit mais Madame Le Pen, mais pourquoi, qu'est-ce que le voile vient faire dans le débat politique? Enfin, je porte le voile parce que c'est pour dire que je suis une grand-mère. Enfin, laissez les musulmans tranquilles.
Et là, du coup, ça les fait douter au Rassemblement National, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas l'air de douter beaucoup. Là, maintenant, ils se posent la question.
Là, ils se posent la question parce que, en effet, ils se disent,
c'est pas faisable.
On a des attaques tellement fortes. Il faut terminer cette quête de dédiabolisation, de normalisation, comme ils disent. Et il faut rassurer, quitte à en effet. Mais alors, c'est donc à enlever ce point qui est extrêmement fort du programme, qui est l'interdiction du voile. Marine Le Pen n'y a pas encore complètement renoncé, mais on voit qu'elle commence à avancer. Elle dit qu'elle n'est pas obtuse sur la question. C'est à double tranchant, parce que dans son programme, c'est en effet une mesure qui est un peu bancale, qui est très difficilement applicable, qui s'attaque quand on se met dans sa tête, hein, qui s'attaque aux conséquences et non pas aux causes du problème. Mais d'un autre côté, il y a une charge symbolique très forte de mobilisation de son électorat, de la mobilisation de l'électorat d'Éric Zemmour. On voit là dans les différents sondages, elle perd, hein, de jour après jour, de l'électorat d'Éric Zemmour qui se reporte sur Emmanuel Macron, sur l'abstention, exactement. Et ça instille une petite musique, c'est-à-dire que finalement Marine Le Pen serait une femme politique ou homme politique comme les autres, c'est-à-dire que elle reculerait en fait.
Corinne Laïc, sur cet entre-deux-tours pour Emmanuel Macron, évidemment la campagne avait été en partie empêchée avant le premier tour. Là, il va au contact. C'est souvent rugueux. Il a été interpellé de manière assez sévère lors d'un certain déplacement. Il y a eu Denain dans le Nord, il y a eu l'Alsace, où des gens sont venus lui dire, même vous êtes le président le plus nul qu'on ait connu. C'est dangereux ça ou pas pour un président en exercice à quelques jours d'un second tour?
C'est évidemment un risque. Je pense qu'il est calculé de sa part parce qu'il a intérêt à montrer qu'il n'est pas planqué dans son bunker élyséen, ce qui avait été quand même le cas pendant la campagne de premier tour, qui a été mauvaise à cet égard. Donc là, il faut qu'il montre qu'il a des qualités de courage. Les Français l'ont crédité jusqu'à présent, mais il était dans une stratégie d'évitement qui permettait d'en douter. Il prend un risque, oui, parce qu'à multiplier les contacts, d'abord on risque des actes de violence verbale, physique. Lui-même risque, et ses partisans ont peur de ça, qu'il réplique de manière un peu provocatrice ou outrancière, comme il l'a fait à diverses reprises, petites phrases. Oui, souvent c'était dans des... Mais pas forcément d'ailleurs dans des moments où il se sent agressé, hein, des moments, c'est presque dans la conversation courante, quand il veut le traverser la rue, c'était pas du tout dans un truc agressif. C'était une question sur les retraites, je me rappelle, avec des personnes âgées au moment de l'hommage à De Gaulle, c'était aussi un échange comme ça, mais hop, c'est la petite phrase glissée dans une démonstration qui peut coûter cher. C'est l'incident qu'on peut pas imaginer. Mais il tient à le faire parce qu'il sait que c'est là qu'il a pêché au premier tour. Et il essaye donc, il a 15 jours pour rattraper ce qu'il n'aura pas fait avant le 10 avril.
Et on sent aussi que ça se tend entre les deux candidats, Charles Sapin entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elle aussi dans les propos qu'elle peut tenir.
Ah, tout à fait. Moi, je suis très marqué par en fait, l'outrance de cette campagne de second tour. En plus, il y a eu un pas de deux entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ces 5 dernières années. Il y avait un intérêt évident pour Marine Le Pen de jouer l'opposition exclusive à Emmanuel Macron et inversement, c'est-à-dire que Emmanuel Macron avait intérêt à rentrer dans une relation exclusive d'opposition avec Marine Le Pen pour se retrouver face à elle, parce que justement pour arriver à exactement à ce moment de second tour face à une candidate qui a l'avantage, à qui il peut répondre. Non pas par un débat d'idées de fond, mais par des arguments moraux et par en fait des anathèmes et finalement
le chaos, quoi.
Exactement. Et c'est quand on voit par exemple le discours d'hier d'Emmanuel Macron, c'est assez intéressant parce qu'un candidat qui se présente comme le candidat de la raison, les arguments contre son adversaire sont à majorité fausses. C'est-à-dire que Marine Le Pen est climato-sceptique. Bon, alors elle a un programme écologiste qui est basé sur le localisme, inspiré de l'écologie intégrale, qui est critiqué dans beaucoup de milieux écolo, mais elle a jamais été climato-sceptique. Quand il dit Marine Le Pen veut sortir de l'Union,
il y a longtemps, il y a quelques années. Elle disait que le réchauffement climatique n'était pas dû à l'homme. Ça elle le dit plus.
D'accord. Alors je serais curieux des archives.
Il y a une dizaine d'années, c'était ça.
D'accord. Hein. En tout cas, c'est plus le cas.
C'est plus le cas.
Moi, pour la suite, vraiment de près depuis 5 ans. Quand il dit que Marine Le Pen veut sortir de l'Union européenne, c'est faux. Quand il dit que Marine Le Pen veut faire un référendum sur la peine de mort, c'est faux depuis plus de 5 ans. Enfin, on a deux candidats qui ont des programmes, des visions, une idéologie exactement adverse, qui pourrait donner lieu à un débat de fond extrêmement intéressant et qui pourrait en fait intéresser les électeurs.
On l'aura peut-être mercredi. Hein.
Et voilà. Et finalement, on tombe en fait sur des combats d'anathème. Marine Le Pen aussi, outrance énormément contre Emmanuel Macron.
On le voit même dans ses conférences de presse, comme il y a eu cette semaine. Jean Massier sur les réseaux.
Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette campagne d'entre-deux tours, c'est qu'elle avait assez mal démarré pour Emmanuel Macron, puisque Marine Le Pen a d'entrée de jeu essayé de lutter contre un mauvais souvenir qu'elle avait laissé dans la mémoire de beaucoup de Français entre les deux tours de 2017. C'était son impréparation, l'improvisation, le fait qu'elle n'était pas prête à arriver au pouvoir
pouvoir. Et là, j'ai l'impression qu'elle a, elle a tenu cette leçon-là et que du coup, elle est arrivée avec un discours extrêmement sérieux. Elle a fait des conférences de presse à l'ancienne où elle lisait un long document assez technique dans lequel elle mettait beaucoup de mots un peu compliqués, etc. Bref, qu'elle essayait de se présidentialiser, d'être rassurante et de rassembler. Là où Emmanuel Macron, du coup, dans ses petits déplacements, se retrouvait à être forcé de répondre à des micros tendus, mais de répondre à quoi ? À ce qu'avait dit Marine Le Pen. Et vous le savez, sur
les
règles politiques, notamment
sur
les institutions, le septennat. Ne jamais faire campagne sur les thèmes de l'adversaire, règle numéro 1. Et là, Emmanuel Macron se retrouvait candidat malgré lui d'un second tour, on avait l'impression qu'il improvisait, ce qui n'était pas le cas, mais on avait l'impression qu'il improvisait. Et du coup, on a eu ces petits dérapages, on a eu l'impression d'une improvisation de la part du président de la République et l'impression d'une grande maîtrise de la part de la candidate d'extrême droite.
Vous êtes d'accord, Corinne Laïc, en deux mots?
Peut-être.
Sur le fait qu'il est, Emmanuel Macron a été obligé d'une certaine manière.
Alors, je dirais que pour moi, le sujet sur lequel il a été le plus obligé d'improviser, c'est la retraite. La retraite à 65 ans, et qui est vraiment son caillou dans la chaussure, et sur lequel, évidemment, Marine Le Pen peut aller le chercher. Cela dit, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la retraite à 60 ans de Marine Le Pen, qui est un faux semblant, mais qui se démonte beaucoup plus difficilement, parce que s'il y a bien une chose dans ce domaine extrêmement complexe qu'est la retraite, que les gens comprennent, c'est l'âge auquel on va partir. Et l'affichage du 65 ans par rapport aux 60 ans peut faire beaucoup de dégâts. Donc, sur ce point, Emmanuel Macron a donné le sentiment de reculer de manière assez rapide dès le lendemain du premier tour. Et là, c'est plutôt, alors qu'il donnait quand même le sentiment d'être un président qui a un programme, qui en est convaincu, qui veut le maintenir, on n'a jamais vu, il me semble, dans un entre-deux tours, quelqu'un qui change aussi rapidement d'avis sur un point aussi majeur de son programme. Pour moi, c'est là où c'est un point faible et en même temps, c'est un repli tactique qui peut peut-être lui être profitable dans la mesure où il a fait baisser la tension sur un thème qu'il n'aurait peut-être pas dû mettre de cette manière-là avant le premier tour.
Alors, on va revenir évidemment sur cet entre-deux tours. On va le faire avec la semaine politique.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
La semaine politique de Cyril Lacarrière. Allez, on vous donnera la parole après Thomas Legrand. C'est promis, juré craché. Allez, à tout de suite. Cyril Lacarrière, c'est à vous.
Bonsoir. Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, forcément, il nous a fait entendre quelques déçus. Oh là là, c'est la douche froide au QG de Yannick Jadot, 4,6% des suffrages sous la barre fatidique des 5% et donc pas de remboursement des frais de campagne.
L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats.
Mais les écolos ne sont pas les seuls à être dans la panade. À droite aussi, le réveil a été douloureux. Lundi matin, c'est une Valérie Pécresse livide qui s'est présentée devant la presse.
La situation financière de ma campagne est désormais critique. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons.
Après le Jadoton, voici donc le Pécreston. L'échec est cuisant pour la candidate de la droite qui a fait près de 15 points de moins que François Fillon il y a 5 ans. En plus de ses problèmes financiers, LR s'est aussi embourbé dans la ligne à tenir pour le duel Macron-Le Pen. Ça a fini par lasser Jean-François Copé. Le maire de Meaux voulait une alliance avec la Macronie, une proposition qui n'a pas suscité l'enthousiasme de ses collègues.
Ce choix n'a absolument pas été suivi par un certain nombre de mes collègues. Et donc, bah, très bien, vous savez, dans ces cas-là, moi j'ai tendance à dire, je vous laisse entre génies. Si vous pensez que ça marche et qu'on peut continuer comme ça, très bien.
De l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon a raté le trou de souris qui lui aurait permis d'accéder au second tour. Il lui a manqué un peu plus de 420 000 voix. Alors, forcément, pour Adrien Quatennens, difficile de ne pas regretter la division de l'extrême gauche.
Le poil de fesse qui manque à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour, on peut le nommer. Quand vous voyez que ce matin, Jean-Luc Mélenchon finit à 22% et que Marine Le Pen est un point devant nous et que Fabien Roussel fait 2,5 points, oui, ces voix nous ont manqué incontestablement.
Pas de lamentation ni de coup de colère dimanche soir pour Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, le patron de la France Insoumise a quitté la scène en exhortant ses jeunes supporters à reprendre le flambeau.
Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé ?» C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci.
Le vent souffle sur cette campagne et il nous a fait entendre les nombreux soutiens en faveur d'Emmanuel Macron. Après son silence assourdissant pour soutenir Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy s'est exprimé en faveur d'Emmanuel Macron, un soutien qui a presque amusé à Marine Le Pen.
Je croyais qu'il le ferait dès le premier.
voyez, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse en n'annonçant pas ce soutien dès le premier tour.
C'est vrai qu'à l'heure où Emmanuel Macron chasse sur les terres de gauche, le soutien de Nicolas Sarkozy n'est pas exactement le meilleur argument de vente, d'autant qu'on prête aux deux hommes un accord secret.
Il n'y a pas d'accord avec qui que ce soit. Je me félicite du soutien de Nicolas Sarkozy, qui a été très clair et qui a marqué un soutien d'adhésion en se reconnaissant dans ce que je porte sur l'Europe, sur le travail. Je m'en félicite.
Un soutien clair. Pourtant, cette bromance n'a pas toujours été d'actualité. Cette semaine, une vidéo est réapparue sur Twitter. La scène se passe lors des débats de la primaire de la droite en 2016. Nicolas Sarkozy parle justement d'Emmanuel Macron.
Qu'est-ce qu'il viendrait faire avec nous? Il a imaginé, rédigé, porté la politique économique de François Hollande. Ça fait 5 ans qu'il est avec lui, 5 heures qu'il est en désaccord avec lui. On va le récupérer pour porter quoi? Il a été son ministre des Finances et maintenant il le trahit. Si c'est ça la modernité, je trouve que c'est plutôt classique.
Le vent souffle sur cet entre-deux-tours et il nous a fait entendre la voix de François Hollande. L'ancien président socialiste a lui aussi dit qu'il voterait pour Emmanuel Macron, mais il a surtout appelé à un renouveau de la gauche après le calamiteux score d'Anne Hidalgo dimanche dernier.
Je crois que pour la gauche, elle ne peut pas être simplement dans un empêchement, elle doit être dans une espérance, dans ce qui peut permettre demain qu'il y ait un véritable choix. Parce que c'est vrai que c'est insupportable pour beaucoup de nos compatriotes de dire « on n'a pas le choix ». Eh bien si, il faut recréer les conditions du choix.
Recréer les conditions du choix, c'est ce qu'ont semblé réclamer les étudiants qui ont manifesté cette semaine. Ces jeunes rejettent d'avoir à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un choix qu'ils jugent néfaste. Et si cela peut vous paraître incompréhensible, voire totalement idiot, écoutez ce qu'en disait l'historien Pierre-Rosan Vallon sur notre antenne vendredi matin.
Avec l'âge, les personnes pensent qu'on peut choisir entre deux mots et qu'il faut choisir le moindre. Mais quand on a de 25 à 35 ans, on voudrait faire un choix positif. Et je comprends que pour les gens qui ont entre 25 et 35 ans, le fait d'avoir le sentiment qu'ils ne sont pas appelés à faire un choix positif, mais simplement un choix négatif, pour eux est quelque chose de très dur, d'un certain point de vue, qui est révoltant.
L'occasion pour moi de vous citer les amis de psychiatres de la rime. Prends ta place, jeunesse de France, donne un sens à ton indépendance, fais vite, montre-leur que tes idées ne sont là que pour la gagne, que t'as le potentiel de déplacer des montagnes, ne te laisse pas anesthésier par leurs belles promesses.
Merci beaucoup pour cette semaine politique, Cyril Lacarrière. Thomas Legrand, ces manifestations d'hier un petit peu partout en France, on est bien loin de ce qu'on avait vu il y a 20 ans. C'est fini.
Ah bah oui, c'est plus le barrage contre le fascisme ou contre l'extrême droite. On est habitué. D'ailleurs, Marine Le Pen s'est banalisée. Ça, c'est même banal de le dire maintenant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cet entre-deux-tours, son combat le plus là où elle attache le plus d'importance, c'est de montrer justement qu'elle ne sombrera pas, que la présidence Le Pen éventuelle, ça ne sera pas non pas du fascisme, ça plus personne ne croit, mais même de l'illibéralisme. Et c'est pour ça que sur les institutions, c'est intéressant. On a mis le doigt sur les problèmes institutionnels, c'est-à-dire que si elle voulait faire appliquer certaines de ses propositions, il faudrait qu'elle se mette en contradiction avec la Constitution, soit pour faire certains référendums, en passant, on l'a déjà expliqué, par l'article 11, ce qui n'est pas possible au lieu de passer par l'article 89, mais même, il y a beaucoup de ces propositions qui sont en contradiction avec le socle constitutionnel qui comprend la déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est des questions un peu techniques qui sont un peu compliquées, mais qui peuvent toucher justement cet électorat que tout le monde chasse, cet électorat mélenchonien qui est quand même attaché à l'état de droit et à la République et à des choses comme ça. Donc c'est pour ça que cette semaine, ça a été un peu dur pour elle sur cette question-là. Et puis après, sur la question économique, où effectivement, elle n'est pas pour la sortie de l'euro, mais il a été démontré, ou de l'Europe, mais il a été démontré par certains que la mise en œuvre de son programme économique serait de fait une sortie de l'Europe et de l'euro.
Vous parliez des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On a eu les résultats de la consultation des parrains, ceux qui avaient parrainé la candidature, 310 000 citoyens qui avaient parrainé, 215 000 ont répondu, 37% se prononcent pour le vote blanc ou le vote nul au second tour, 33% pour Emmanuel Macron, 29% pour l'abstention. Corinne Laïc, qu'est-ce qu'on peut dire de...
Les 33% pour Macron correspondent à peu près à l'estimation que font les sondeurs sur les reports de voix des voix mélenchonistes sur Macron. À part ça, le reste n'est pas très significatif puisque l'hypothèse Le Pen n'était pas testée. Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, sinon que les potentialités mélenchonistes de report sur Macron sont quand même assez limitées, ce qui justifie l'inquiétude de beaucoup de macronistes qui ne se laissent pas bercer par les sondages actuels qui donnent tous Macron gagnant. Ils redoutent beaucoup l'absence de report mélenchoniste.
En tout cas, Marine Le Pen, elle continue à faire campagne sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon aussi. Aujourd'hui, par exemple, elle parlait du RSA et de l'obligation de travailler en échange du RSA. Elle disait, ça revient à faire travailler les gens à 6 euros de l'heure. Alors, même un discours comme ça, même chez Philippe Poutou et Arthaud, oui. On ne l'a pas entendu. Hein.
Alors tout à fait. Charles Sapin. Encore une fois, cette stratégie, l'idée de Marine Le Pen n'est pas de convaincre des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour elle, mais plutôt les désamorcer, les rassurer pour que ils refusent dimanche prochain de choisir entre elle et Emmanuel Macron. C'est tout cette stratégie aussi de dédiabolisation, de finalement entre guillemets d'endormir les électeurs de gauche et de désarmer le Front Républicain. On le voit, hein, il est encore présent de façon institutionnelle. Il y a une succession de tribunes à appeler à voter contre Marine Le Pen. Vous avez le Luxembourg, le MEDEF, les artistes, les différents partis politiques.
Les syndicats.
Les syndicats. Le pari de Marine Le Pen, c'est que ce Front Républicain institutionnel n'aura plus de conséquences sur le Front Républicain des citoyens, des électeurs. Et tout l'espoir de Marine Le Pen, c'est là on le voit, hein, c'est, de toute façon c'est une campagne rejet contre rejet. La vraie question c'est qui dimanche prochain suscitera le plus de rejets, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Et tout l'espoir de Marine Le Pen, c'est justement que ses électeurs de Jean-Luc Mélenchon se réfugient dans l'abstention en se disant bah, entre la peste et le choléra, je vais à la pêche.
Alors on va voir maintenant comment les internautes de gauche ont réagi. C'est votre chronique, Jean Massier.
Absolument. Eh bien, écoutez, Claire, ils ont très mal réagi. Vous vous en doutez, dimanche dernier, la gueule de bois était d'autant plus dure que l'ivresse était importante. Parce que sur Internet, la dynamique pro-Mélenchon a été vraiment impressionnante. Dans les derniers jours avant le premier tour, beaucoup de tweets, de retweets, de likes. Mélenchon était tendance. Il a même engrangé des soutiens de stars d'Internet, comme par exemple le streamer Rebeu des Terres, on parle de 800 000 followers sur Twitch, et 1,7 million sur Twitter quand même, qui a appelé à voter pour le candidat de l'Union Populaire, ce qui est très très rare comme prise de position pour ce type d'influenceur très jeune, qui d'habitude ne parle jamais de politique. Mais passer cet enthousiasme d'avant le premier tour, et une fois les résultats tombés dimanche dernier, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur les réseaux. Comment l'extrême droite peut-elle être représentée par un électeur sur trois? Comment Emmanuel Macron peut-il faire mieux qu'en 2017 alors qu'on a l'impression que tout le monde le déteste? Et c'est là qu'on voit le phénomène des bulles de filtre. Vous savez, ces espaces numériques dans lesquels les réseaux sociaux nous enferment et on ne retrouve que des gens qui ne pensent que comme nous. J'ai moi-même passé ma soirée de dimanche dernier à expliquer à plusieurs dizaines de milliers d'internautes en direct sur Twitch, plutôt des proches de la France Insoumise d'ailleurs, ce que c'était. Écoutez par exemple ce que je répondais à l'un de ces internautes qui se disait totalement médusé devant la progression d'Emmanuel Macron et de l'extrême droite.
Ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur ce qu'on appelle les bulles de filtre en politique, notamment sur Internet, où quand, à force de ne suivre que des comptes Twitter ou des chaînes Twitch ou des chaînes YouTube et tout, de gens qui sont d'accord avec toi, tu as tendance, et c'est normal et c'est naturel, et ça a déjà été étudié plein de fois par plein de chercheurs, tu as tendance à projeter sur le monde une vision politique qui est conforme à la tienne et qui surreprésente les gens d'accord avec toi et surreprésente les personnes en désaccord avec toi. Et du coup, il y a probablement des gens pour qui le premier tour d'une élection présidentielle, c'est un grand moment de désarroi, parce qu'ils ont l'impression de ne pas reconnaître le monde qu'ils ont l'habitude de voir avec leurs lunettes. De dire, mais c'est bizarre ces scores, comment ça se fait? Et en fait, c'est juste la réalité qu'ils ne voyaient pas par le passé, à force de la regarder différemment, avec un prisme différent. Et ça c'est un truc auquel il faut être habitué. Il se trouve que moi, ça y est, je commence à avoir de la bouteille, j'en ai vu et j'en ai revu des élections présidentielles, des élections locales, etc. Donc je commence à être de moins en moins surpris par ça. Mais je comprends que ce soit très surprenant pour des personnes, et parfois aussi très frustrant.
Alors, on était sur Twitch, là, Jean.
Absolument, hein. Oui.
J'imagine qu'après la frustration du premier tour, il y a maintenant l'angoisse du second.
Oui, l'angoisse et la colère, Claire, parce que l'affiche Macron-Le Pen, c'est le scénario cauchemardesque pour les électeurs mélenchonistes qui se retrouvent contraints de devoir faire un choix cornélien. Voter Macron pour protéger la République, voter Le Pen pour dégager Macron, s'abstenir pour dire son dégoût, quoi faire. Or, les sympathisants insoumis, ils ont une particularité, c'est qu'ils s'expriment énormément sur Internet. Autant vous dire que depuis une semaine, on ne s'ennuie pas, on peut suivre à la trace et en direct leur pérégrination et leurs hésitations.
frustrations et même leurs engueulades, puisqu'une nouvelle donne vient tendre les discussions. Le nombre d'électeurs de gauche tentés de voter Le Pen promet d'être bien plus important qu'en 2017. À l'époque, on était à peu près à 7% des électeurs mélenchonistes qui avaient voté Le Pen au second tour. Dimanche prochain, on est entre 15 et 25% selon les estimations. C'est du jamais vu. La situation est tellement tendue que pour la première fois, les insoumis s'invectivent entre eux sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Twitter, on a pu lire Usul, qui est un vidéaste très influent chez les jeunes insoumis, qui soutient le vote Macron, lui, contre Le Pen, et qui a tweeté, je cite, « Les insoumis, vous me saoulez. Il y en a qui se sont bouché le nez pour voter Jean-Luc et sauver la gauche, et vous seriez pas foutu de faire pareil pour sauver la République. » Ce à quoi un autre insoumis qui s'appelle Pinky lui répond « Au second tour, ce sera tout sauf Macron. Cette fois, je ferai barrage à Macron. » Sous-entendu, il votera Le Pen. Et un troisième tweetos qui s'appelle Neri Knight qui vient ajouter son opinion en disant « Moi, je peux pas voter Macron une deuxième fois. C'est juste pas possible. Ce sera vote blanc pour moi. » Vous voyez, l'ambiance est quand même sacrément dure. Pour finir, et c'est dans ces moments-là qu'on voit les limites de la communication numérique des candidats. Depuis dimanche dernier, c'est silence radio du côté de Jean-Luc Mélenchon sur Internet. Les cadres de l'Union Populaire non plus ne s'expriment que dans les médias classique et seulement pour parler des législatives. C'est pourtant justement dans ces moments-là que Jean-Luc Mélenchon, sur YouTube ou sur Twitch, pourrait rasséréner ses troupes et simplement leur parler. Je pense qu'ils en ont besoin.
Alors je pense qu'on va l'entendre sans trop tarder, Jean-Luc Mélenchon.
Ils sont pas d'accord entre eux, c'est ça aussi les cas.
Mais justement, c'est là qu'il faut leur parler.
Et Éric Zemmour, Charles Sapin, quand est-ce qu'on va l'entendre? On l'a plus vu, il a disparu des écrans radars. Il est où? Il fait quoi?
Alors, Éric Zemmour, oui, non, c'est vrai qu'il est vraiment là en retrait depuis son appel à voter pour Marine Le Pen. Qui a d'ailleurs été assez peu suivi des faits, c'est-à-dire que Marine Le Pen l'a remercié de façon privée, mais que ce soit dans les médias, dans ses déplacements, elle ne l'a absolument pas remercié, elle n'a pas tendu la main aux électeurs d'Éric Zemmour. Pourquoi? Parce qu'elle a qu'une peur, c'est que ce soit utilisé par Emmanuel Macron ou par ses adversaires comme pour montrer une alliance entre elle et Éric Zemmour et qu'elle hérite finalement du rejet que suscite Éric Zemmour sur une partie de la gauche. Là, les membres de Reconquête, ils travaillent déjà sur l'étape d'après, qui est l'étape des législatives, pardon, je vais y arriver. Et c'est intéressant parce que en fait, ils sont pas tous d'accord entre eux. Il y a deux stratégies qui se font front. Il y a une partie des gens qui disent mais aux législatives, il faut même pas essayer de faire une alliance avec le Rassemblement National parce que comme on est assez fort dans le Sud, comme ça, ils n'auront pas de députés, mais nous non plus. Et zéro député, sauf que du coup le Rassemblement National n'aura plus d'argent et il va mourir de sa mort financière et nous on pourra récupérer le bébé à la fin. Et il y en a d'autres qui disent bah non, il faut qu'on s'allie parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir recomposer l'échiquier politique. Quand vous regardez des circonscriptions comme celle d'Éric Ciotti, s'il y a une candidature Reconquête, une candidature RN, une candidature LR, donc d'Éric Ciotti, il a un chemin pour se retrouver au second tour face à un candidat La République En Marche. En revanche, s'il y a une candidature unique RN Reconquête, eh ben, il n'a aucune chance d'être au second tour et du coup, ça pourrait le pousser à passer le Rubicon.
C'est bien compliqué tout ça. Grand laïque, on a entendu effectivement le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, c'est pas complètement désintéressé, si on a bien compris. Il y a aussi une volonté de recomposition là qui se trame derrière.
Ça recompose de tous les côtés. Nicolas Sarkozy veut peser dans la future majorité. Il a imaginé une majorité plurielle, mais c'est extrêmement compliqué parce que toute la question c'est de savoir si ça sera une majorité unie, dans un parti unique, ce dont évidemment les LR ne veulent pas, si une partie d'entre eux va y aller. On est vraiment dans une espèce de Rubik's Cube hein, et on ne sait pas très bien comment les différentes faces vont pouvoir s'harmoniser. Tout va dépendre, un, évidemment, du résultat de l'élection présidentielle, et puis deux, des accords pour les législatives et des résultats des législatives. Donc franchement, c'est assez difficile d'imaginer la suite des événements. On est vraiment dans un no man's land.
Ne grillons pas les étapes, n'allons pas trop vite. Il y a d'abord le second tour et avant cela, le débat d'entre-deux-tours. C'est la grande affaire de la semaine à venir. On va voir ça avec les bobineaux de Thomas Legrand. Thomas, vous avez choisi, à propos des débats télévisés d'entre-deux-tours, ceux de 1974 et 1981, pour une raison bien précise, c'est que les débatteurs étaient les mêmes.
Oui, c'est le seul précédent, Mitterrand et Giscard, en 74. Et de l'avis général, Valéry Giscard d'Estaing avait dominé le débat, notamment grâce à cette punchline, on disait pas punchline à l'époque, qui faisait référence à l'âge et au long passé de parlementaire de la 4e République de François Mitterrand. C'est un classique.
Ce qui me frappe dans ce débat, Monsieur Mitterrand, je vous le dis très simplement,
c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations, c'était le passé, c'était 1969, c'était 1962, c'était 1945. On a l'impression que vous ne voulez pas regarder l'avenir de la France. Et si vous ne voulez pas le regarder, M. Mitterrand, vous ne le conduirez pas bien, cet avenir.
7 ans plus tard, un autre classique, la réponse.
Vous ne voulez pas parler du passé, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole, mais moi j'étais dans l'opposition, j'ai rempli mon rôle démocratiquement dans l'opposition, et l'opposition c'était pas rien dans une république.
Et de l'avis général, le lendemain, Mitterrand avait été meilleur. Mais j'ai réécouté en entier ce débat, et franchement, à froid, à part ce moment, et celui très fort aussi de la peine de mort, bien sûr, c'est toujours Giscard, plus à l'aise avec la télé, plus au fait des dossiers et des chiffres sur l'économie, qui était le meilleur. Mais les attentes politiques réclamées Mitterrand, et surtout Valéry Giscard d'Estaing, avaient un bilan, un passif, et c'est toujours plus compliqué dans un débat. Enfin, je voulais vous faire écouter cet extrait, dont la pertinence charbon mis à part, hein, on ne connaissait pas le réchauffement à l'époque, la pertinence n'a pas pris une ride 40 ans après.
J'ai demandé à M. Mitterrand pourquoi veut-il interrompre le programme électronucléaire français exactement là où je l'ai conduit, alors que je considère que la poursuite de ce programme électronucléaire est indispensable pour assurer l'indépendance énergétique de la France et pour nous libérer de la contrainte humiliante et inquiétante des producteurs de pétrole sur la France, au point de vue de nos approvisionnements et de nos prix.
Mais je veux autant que vous assurer l'indépendance énergétique de la France. Simplement, je ne prends pas le même itinéraire que vous. Je pense qu'il est possible de diversifier davantage. Je pense qu'il est possible de réveiller plus que vous ne le faites le charbon, notamment avec les techniques modernes de la carbochimie. Je pense que l'on peut contribuer au développement des énergies renouvelables, non polluantes. Je pense que l'on peut faire plus que vous ne le faites des économies d'énergie, l'axe principal de l'indépendance énergétique de la France.
Vous voyez, on n'invente pas
très pertinent,
tout, hein, 40 ans après.
Ressorti tout ça. Merci beaucoup Thomas Legrand. Le débat d'entre deux tours, ce sera mercredi. Débat arbitré par Léa Salamé et Gilles Boulot. On se souvient du naufrage de Marine Le Pen en 2017, Charles Sapin. Elle nous explique qu'elle se prépare depuis 5 ans, c'est vrai ça?
Bah en tout cas, c'est un souvenir qui la hante depuis 5 ans. Et tout est fait dans son entourage et dans cette préparation pour finalement laver ce souvenir de ce piteux précédent.
Elle se prépare ?
En fait, a été décidé de prendre le contre-pied d'à peu près tout ce qui avait été décidé et fait il y a 5 ans. Sur le point de la préparation et sur le plan stratégique, la stratégie adoptée face à Emmanuel Macron. Alors sur la préparation, on s'en souvient, il y a 5 ans, Marine Le Pen avait multiplié les déplacements, les rencontres jusqu'à la veille du débat. Elle y était arrivée complètement exténuée. Là, à partir de demain midi, la candidate se met au vert, elle va dans le Grand Ouest, dans une maison d'un de ses amis, elle s'y enferme et elle bûche. Elle va bûcher des fiches techniques, elle va faire des séquences thématiques avec quelques experts pour s'entraîner, et elle va même faire des faux débats.
Un faux Macron.
Exactement. Alors, c'est son entourage a trouvé parmi les conseillers quelqu'un qui a la sociologie, l'âge, vraiment un profil très très proche d'Emmanuel Macron. Il lui ressemblerait même physiquement, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, donc il jouera les sparring partners. Sur la stratégie aussi, changement complètement de cap. On s'en souvient, il y a 5 ans, hein, dès les premières minutes, elle avait sauté à la gorge de son adversaire. Elle avait paru à la fois extrêmement brutale et très imprécise. Finalement, c'était un débat perdu assez rapidement. Là, elle veut jouer le surplomb. Finalement, elle a préparé évidemment quelques banderilles sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais sa stratégie est d'apparaître comme présidentielle et presque sauter au-dessus de son adversaire pour parler directement aux Français, pour étaler son programme et essayer de convaincre. Il y a un débat modèle sur lequel c'est son entourage travaille. C'est en fait le débat Jospin-Chirac de 95. Ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être le débat le plus ennuyeux et le plus terne de toute la Ve République.
Corinne Laïc, Emmanuel Macron, lui, il le prépare ce débat ou il le prépare pas?
Oui, dans le plus grand secret, mais il reçoit, pas le dire, il reçoit beaucoup, oui, il donne pas beaucoup de détails sur la manière dont il est préparé. Il reçoit énormément de notes de ses ministres et de pas mal de gens qui l'aident à se préparer. Il reçoit aussi beaucoup de conseils, et notamment, ce que je peux vous dire, c'est que sa femme Brigitte est saisie de demandes pressantes d'amis qui lui disent il faut absolument qu'Emmanuel se repose. Et elle est la seule à pouvoir le convaincre de se reposer, parce qu'ils ont acté le fait qu'il valait mieux arriver frais et dispo.
Est-ce qu'il y a une fausse Le Pen?
Alors, certains lui suggèrent de prendre Estrosi comme débatteur, parce que Estrosi connaît bien l'extrême droite. Alors, je ne sais pas s'il va le faire, mais de manière générale, Emmanuel Macron n'aime pas trop, il n'aime pas les trainings, et il n'aime pas ce genre de mise en scène, parce qu'il considère que ça n'a rien à voir avec, évidemment, la réalité.
Estrosi avec une perruque.
Mais je pense qu'il va s'efforcer surtout de ne pas apparaître trop comme donneur de leçons, ce qui peut être le défaut du sortant et peut-être le défaut d'Emmanuel Macron, d'autant que la candidate n'est plus celle de 2017. Et il va essayer évidemment de pointer ses points faibles, notamment en matière de retournement des alliances européennes et internationales, de l'incertitude que ça peut créer et des atteintes à l'indépendance française.
Est-ce qu'il est inquiet, Emmanuel Macron, de la suite des événements ou pas? Est-ce qu'il envisage? Au-delà du débat, est-ce qu'il est inquiet pour cette fin de campagne, d'une éventuelle défaite? C'est une hypothèse qui a été envisagée ou pas?
Quand on lui pose la question, certains de ses proches me l'ont relaté, il dit de toute façon, si je ne suis pas réélu, c'est que le dégagisme l'aura emporté. Donc je n'y veux rien. Donc il est assez fataliste et il utilise d'une certaine manière la même analyse que celle qui lui a permis de triompher en 2017 pour une éventuelle défaite en 2022, mais je ne pense pas qu'il passe son temps à contempler la défaite.
Charles Sapin, du côté de Marine Le Pen, elle ne cesse de dire qu'elle est prête, qu'elle a de quoi former 3 gouvernements, que les équipes sont déjà quasiment constituées. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça?
C'est vrai. C'est-à-dire que
on a l'impression qu'elle est un peu seule quand même, qu'il n'y a pas grand monde.
Il y a un vrai sujet sur la solitude de Marine Le Pen. Vous avez totalement raison. En fait, elle a une idée de profil, mais c'est des profils qui ne l'ont pas rejoint malgré les efforts, les relances. Elle a beaucoup travaillé là-dessus avant même le premier tour. Des contacts avaient été pris avec des responsables républicains. Elle a bien observé les républicains qui ont rejoint Éric Zemmour, qui ont été d'ailleurs séduits, mais par les équipes de Marine Le Pen, en vain. Et c'est vrai que, évidemment, si Marine Le Pen est élue à l'élection présidentielle, il va y avoir une multitude d'opportunistes qui vont venir frapper à sa porte, elle n'aura pas de problème pour... Mais ça pose un problème de crédibilité, qu'elle ne puisse pas habiller, donner des noms de ce gouvernement d'Union nationale qu'elle appelle de ses voeux. Et c'est intéressant parce que la crédibilité... En fait, il y a 3 crédibilités qui se posent avec Marine Le Pen. La crédibilité programmatique, bon, ça, elle fait des conférences de presse, elle est très prompte à y répondre. La crédibilité dans l'incarnation, ça va être le travail du débat. Et cette crédibilité d'équipe, eh ben, elle refuse d'y répondre. Et c'est vrai que c'est problématique.
Thomas Legrand.
Souvent, quand quelqu'un peut gagner l'élection présidentielle, on va voir qu'il y a des papiers avec qui peut être ministre, etc. Le problème, c'est que là, si on regarde qui peut être ministre, on regarde les députés européens. Or, quand ils incarnent un sujet, généralement, ils incarnent le sujet d'avant la dédiabolisation. C'est-à-dire, comme elle a changé sur tout, eux, ils incarnent plutôt avant le changement. Donc c'est assez compliqué.
Il y a un contraste avec Emmanuel Macron qui est flagrant, parce que elle, ses soutiens se comptent sur les doigts d'une main. Macron, c'est un mille pattes qu'il faudrait pour les comptabiliser. Hein. Donc il y a vraiment un énorme décalage qui, d'une certaine manière, est un peu inquiétant, parce que derrière Marine Le Pen, même si elle perd, il y a près de 17 millions de Français qui auront voté pour elle. Donc c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet pour la suite. Juste, allez, il nous reste une minute concernant le programme de la semaine au-delà du débat. Dernier meeting pour Marine Le Pen jeudi à Arras, c'est bien ça, Charles Sapin, que c'est prévu en tout cas?
Et exactement, et elle fait un déplacement demain en Normandie. On ne connaît pas encore les détails parce que, en fait, pour prévenir le risque d'antifa, de mobilisation, elle donne vraiment au compte-gouttes et vraiment à la dernière seconde les détails de ses déplacements.
Et pour Emmanuel Macron, Corinne Lalanne?
Je ne peux pas vous dire à ce stade.
On avait parlé d'un meeting le vendredi.
Il y aura probablement un dernier meeting avant le second tour, oui.
Et pour lui, l'objectif, c'est quoi? Éviter le mot de trop, l'incident de dernière minute, comme pour les deux candidats?
Oui, c'est la dernière salve de mobilisation.
Jean Massier, je voulais pas vous empêcher de donner peut-être le mot de la fin.
Non. Ce que je sais aussi, c'est que beaucoup d'équipes commencent sérieusement à réfléchir aux législatives qui promettent cette année, quel que soit le scénario de l'élection, absolument passionnante. Et il est possible qu'on vive des moments politiquement très intéressants dans ces élections législatives. J'ai jamais vu une telle mobilisation sur ces élections-là, alors qu'on n'a pas encore fini la présidentielle.
Notamment à gauche.
L'extrême droite aussi. Comment on fait? Qui on présente? Comment? Ça devient passionnant.
Ça peut être la revanche des vaincus.
Ah, c'est le troisième tour. Pour les vaincus, c'est le troisième tour. Ils le préparent. Ils sont dans les starting blocks.
Avec une sorte de schéma de cohabitation, on sait jamais.
Ils en rêvent.
LR en rêvent d'une certaine manière. Oui, bien sûr.
Et puis, d'autant qu'il y a un mois de plus. Qu'habituellement, donc ce qui laisse plus de temps pour préparer ces élections.
Eh ben merci à tous d'être venus ce soir. Pas de dimanche de campagne la semaine prochaine, ce sera jour de vote et ce sera donc une grande soirée électorale sur France Inter.
Cette élection, mes amis,
il fallait que ce soit un coup d'éclat.
Mais c'est une campagne de merde.
Gagner.
Jusqu'à changer le monde.
La victoire.
C'est pas qu'une personne.
Et vous tous.
Vive la République.
Vive l'écologie.
Et surtout...